donc je suis Josie Hainaut d'Amnesty International du groupe de Tenons les Bains. Et à côté de moi, il y a Nathalie Berger qui est notre secrétaire et qui est également qui est responsable de la coordination USA à la section française. Donc elle part tous les 15 jours, c'est ça, hein, Nathalie ? Tous les 15 jours à Paris. Et c'est elle qui est chargée de travailler sur les USA et ensuite elle envoie tous les groupes de France le travail, les actions à faire et les informations au sujet des USA. Voilà, donc aujourd'hui, moi je vais vous parler des enfants soldats. Il y a en ce moment une petite tendance favorable pour qu'il y ait moins de recrutement d'enfants soldats. C'est un petit plus, on est très content, on est ravis pourvu que ça dure. Et je voulais vous signaler qu'au mois de décembre dernièrement, donc c'est très récent, le Premier ministre du Népal a annoncé la démobilisation de 3000 enfants qui se trouvent dans des contingents maoïstes. Donc vous voyez qu'il y a quand même un espoir. Mais il ne faut pas oublier quand même que malgré tout ça, il y a encore 86 pays qui utilisent des enfants soldats. D'après l'UNICEF, il y aurait à peu près en ce moment dans le monde à peu près 300 000 enfants, dont 120 000 en Afrique. Or, les sociétés traditionnelles africaines n'utilisent pas d'enfants, si vous voulez, ne forment pas d'enfants à devenir guerriers avant les rites initiatiques du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et vous voyez que ça a bien changé. Donc, comment sont recrutés ces enfants ? Eh bien, il y a des enfants qui sont recrutés dès l'âge de 10 ans, quelquefois même 7 ans. On a des témoignages d'enfants de 7 ans. Ces enfants, on les prend légalement, si vous voulez, parce que ce sont des enfants qui se portent volontaires, soit pour avoir de l'argent pour aider leur famille, soit pour se venger d'exactions terribles subies par leur famille. Et puis autrement, souvent les enfants sont pris, sont volés, kidnappés sur le chemin de l'école. Ça, c'est très très fréquent. Autrement, il y a dans des camps d'immigrés, il y a beaucoup de kidnapping comme ça. On kidnappe également des orphelins, des enfants des rues. Donc des centaines de milliers d'enfants, donc je vous dis, sont enrôlés dans des forces armées gouvernementales ou des groupes armés d'opposition et peuvent être envoyés au combat donc à tout moment. Les plus petits sont utilisés comme espions, comme cuisiniers et comme messagers. Parce qu'avec leur petite taille, ils peuvent se faufiler partout. La plupart des groupes armés justifient le recrutement des enfants par le manque de combattants adultes. Mais c'est surtout parce que ces enfants ne coûtent pas cher. Ils sont faciles à manipuler, ils sont obéissants et ils sont peu conscients du danger. Mais également, ils sont plus influençables que les adultes et les enfants sont facilement doctrinés par des chefs paternalistes ou violents. D'autre part, comme ils n'aspirent pas à des postes de pouvoir, ils ne représentent aucune menace pour la suprématie des dirigeants adultes. Leur taille et le manque de conscience lié à leur jeune âge, manque de distinction entre la réalité et le jeu, parce qu'en fait, quand on leur met un uniforme et qu'on leur met une arme dans la main, pour eux, pour quelques-uns, c'est comme un jeu, puis ils se sentent forts, ils se sentent devenir adultes. Donc, ils sont des combattants idéaux et très dangereux. Les enfants sont des enfants très dangereux, qui en viennent facilement à perpétrer des massacres, des viols, à utiliser la torture. Ce sont de redoutables bourreaux. Une fois enrôlés, les enfants soldats sont très souvent drogués, terrorisés par des menaces de mort proférées par leur chef. Là, je vais vous lire un petit témoignage d'un enfant qui s'appelle Thomas, c'est un témoignage éloquent. Donc Thomas avait 16 ans quand il a été recruté en RDC. Son frère de 8 ans ainsi que plusieurs autres enfants ont également été recrutés à la même époque. En raison de blessures graves dues à des coups sur sa colonne vertébrale, il y a peu de chances pour qu'il retrouve l'usage total de ses membres. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit « Les traces que j'ai sur tout mon dos sont dues au commandant du camp qui m'infligeait 40 coups de crosse de fusil chaque fois que je ne parvenais pas à faire, comme un adulte, les exercices quotidiens ou bien si je m'endormais pendant mes tours de garde. En raison des coups, deux de mes amis dans le camp sont morts. Les soldats les ont enterrés dans les toilettes. Je pense toujours à eux. » Il y a le problème des filles. Les filles représentent à peu près un tiers des enfants soldats. Elles sont soit combattantes, au même titre que les garçons, soit esclaves ou épouses, c'est-à-dire utilisées sexuellement par les soldats. La plupart se retrouvent enceintes et à la fin des conflits, les filles sont rejetées par leur communauté et tombent dans la prostitution ou la mendicité. Outre les risques évidents de mort ou de blessures graves, les enfants soldats souffrent de façon disproportionnée des rigueurs de la vie militaire. Les jeunes enfants ont le dos et les épaules déformés par les charges trop lourdes pour leur âge. Ils subissent des mutilations, dans les champs de mines en particulier. On relève des infections de la peau, des brûlures, des infections respiratoires, des voies respiratoires, le sida, des problèmes visuels ou auditifs et des conséquences psychologiques très graves puisque les enfants ont vu des atrocités ou en ont commis eux-mêmes. Pourquoi ce phénomène ? Premièrement, à cause de la prolifération des armes, en particulier des armes légères. Certaines armes sont semi-automatiques et peuvent être utilisées par un enfant de 10 ans et sont suffisamment simples pour être démontées, remontées par un enfant de cet âge. Une seule pression sur la détente est suffisante pour envoyer une rafale de balles, et dans certains pays, ces armes ne coûtent pas cher. Deuxièmement, plus le conflit dure, plus on recrute. Des enfants, comme je vous disais tout à l'heure, se portent volontaires pour survivre, parce qu'ils n'ont rien pour vivre, ou pour se venger des atrocités commises contre leur famille. Que dit le droit international ? Il existe aujourd'hui un consensus international contre l'utilisation des enfants soldats. Entrée en vigueur en septembre 1990, la Convention internationale aux droits de l'enfant est considérée comme le plus puissant instrument juridique au service de la reconnaissance et de la protection des droits fondamentaux des enfants. Donc avant, il était demandé aux États de veiller à ce qu'aucun enfant de moins de 15 ans ne soit enrôlé dans leurs forces armées. Maintenant, grâce à un grand nombre de gouvernements, d'experts internationaux, de défenseurs des droits humains, dont Amnesty International, ont milité pour que l'âge de 18 ans soit internationalement reconnu comme âge minimum de recrutement. Ces efforts ont abouti en 2002 à un protocole facultatif se rapportant à la Convention. Ce protocole fait passer de 15 à 18 ans l'âge auquel la participation directe au conflit armé est autorisée. Il existe aussi une justice pénale internationale. Lors de la signature d'accords de paix, les responsables de crimes de guerre sont poursuivis pénalement. En ce moment, à Amnesty, nous suivons le procès de Thomas Lubanga, président du parti UPC, Union du Peuple Congolais, qui a contrôlé l'Ituri, est du Congo, dans les années 2000. Et Thomas Lubanga a utilisé des enfants dans des milices, des enfants de 13, 14 et 15 ans. Amnesty International ainsi que d'autres ONG ont travaillé d'une manière intense pour obtenir un contrôle sur la circulation des armes légères. En décembre 2008, donc très récemment, il y a eu, grâce à ce lobbying, un vote historique à l'ONU en faveur d'un traité international sur le commerce des armes. Maintenant, le gros problème, c'est la démobilisation des enfants soldats. Après les accords de paix, les enfants trop jeunes sont abandonnés dans des camps ou invités à rentrer chez eux. Mais s'ils ne passent pas par une démobilisation officielle, ça revient à dire qu'ils pourront être à nouveau recrutés. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont souvent très mal accueillis, car il est considéré qu'un enfant qui a commis des exactions est spirituellement contaminé et transmet ce mal à sa famille et à sa communauté. Des centres de réinsertion ont été créés où on soigne ces enfants tant psychologiquement que physiquement. Ils sont dans un état de délabrement absolu, physique et mental. La perte d'un sens ou d'un organe, tout comme une longue exposition aux drogues, peuvent avoir des conséquences très lourdes sur les espoirs de réinsertion. Le développement psychique, social, éducatif, professionnel est fortement compromis par ces handicaps. Et ceci peut conduire au rejet de l'enfant par la communauté et à la marginalisation au sein de la société. Donc on dit toujours que ces enfants, que ce sont des enfances brisées, mais moi je vous dis que ce sont des vies brisées.
Moi, je voulais rebondir sur ce que dit Josie, d'abord parce que la première chose, elle m'a présentée, mais elle ne s'est pas présentée elle. Donc, c'est l'ancienne secrétaire de notre groupe. Elle a bossé pendant 7 ans en tant que secrétaire de notre groupe et elle a vraiment dynamisé son groupe. Donc, je voulais quand même lui rendre hommage, puisque moi, j'en ai eu une tartine, donc au moins que je lui en mette une aussi. Donc, ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les enfants soldats sont bien connu dans la population, au niveau du continent africain et au niveau du continent sud-américain. Je voulais intervenir en ce qui concerne les enfants qui sont aujourd'hui encore enfermés à Guantanamo pour vous montrer que les enfants soldats, ça n'est pas que, effectivement, sur le continent africain ou sud-américain. La première chose, pour rebondir sur le droit international, la Convention internationale des droits de l'enfant, dont on fête les 20e anniversaire, il y a deux pays qui ne l'ont pas signée, c'est la Somalie et les États-Unis. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est une des campagnes d'Amnesty International qui est très importante en ce qui concerne les États-Unis pour essayer de faire en sorte que les États-Unis, qui est quand même un des grands pays du monde, signe cette convention internationale et a fortiori le protocole, qui est en général, les protocoles sont souvent un petit peu plus répressifs que la convention, enfin donne un peu plus d'arguments aux États pour essayer de poursuivre les États qui ne respecteraient pas leur engagement. La deuxième chose, au niveau du Pakistan, il y a récemment des reportages sur la télévision américaine qui ont montré l'entraînement d'enfants soldats qui est reconnu de toute façon au Pakistan avec dans les madrassas, dans certaines madrassas qui sont entre guillemets spécialisées dans l'entraînement des gamins. Alors il y a deux types de gamins qu'on entraîne, entre 12 et 14 ans et entre 4 et 6 ans, à être des gamins qui vont provoquer des attentats suicides. Donc ils sont bardés d'explosifs et vont se faire exploser dans une foule comme vous avez pu voir, si on peut dire, puisque le reste en général pas grand-chose. Et ces gosses sont effectivement pris en charge et entraînés à faire ces attentats suicides. Et puis, donc aujourd'hui, les Américains ont reconnu avoir emprisonné 27 enfants, donc gamins qui ont été arrêtés entre 14 et l'âge de 16 ans à Guantanamo. C'était en 2002, donc ils y sont restés pendant 7 ans. Et il y en a encore 5, dont 2 pour lesquels Amnesty International s'est vraiment fortement mobilisé, Omar Khader et Mohamed Jawad, et pour lesquels il y a une pétition sur notre table. Qui traite plus particulièrement des commissions militaires, qui est donc un système mis en place par le gouvernement Bush pour poursuivre les détenus de Guantanamo, qui est un système illégal, qui avait été déclaré illégal par la Cour suprême des États-Unis et qui a malheureusement, qui avait été suspendu par le président Obama juste après son élection et qui malheureusement, cette semaine, a affirmer que le système des commissions militaires était juste, qu'il fallait effectivement un certain nombre de réaménagements, mais que ce système allait être poursuivi. Omar Khader donc, et Mohamed Jawad, qui sont tous les deux considérés comme des enfants soldats, risquent d'être poursuivis. Leur procès devrait en principe débuter début juin, sauf si c'est reporté encore de quelques semaines. Et comme Josie vous a lu un témoignage donc, d'un enfant soldat, moi je voudrais vous dire donc, deux mots de Mohamed Jawad, puisque son histoire est assez bien connue, qui explique là aussi très bien comment effectivement ces gamins sont recrutés. Il est parti pendant la guerre avec les Russes, quand les Russes ont occupé l'Afghanistan. Il est parti avec sa famille dans un camp de réfugiés au Pakistan, comme beaucoup. Il était gamin, là il vivait comme il pouvait, Il a rencontré des adultes qui lui ont dit bah, viens avec moi, on va te donner une éducation, on va te donner de quoi nourrir, on va t'aider à nourrir ta famille, etc. Et il s'est retrouvé dans un camp d'entraînement au Pakistan, drogué, c'est lui qui le raconte. Il avait tous les jours, comme il dit, des piqûres dans les jambes, mais il ne savait plus très bien où il était. Et il a été arrêté, donc il avait 14 ans, parce qu'il avait une grenade entre les mains. Il aurait lancé donc une grenade sur une voiture américaine et il aurait blessé deux soldats américains et leur traducteur pakistanais. Donc il a été arrêté, transféré à Bagram, torturé, transféré ensuite à Guantanamo, torturé également. Il avait 14 ans au moment des faits. Et il a passé donc 7 ans à Guantanamo, il y est toujours. Et donc c'est un de ceux qui risque de passer dans les commissions militaires. Donc c'est un résumé effectivement de son histoire, mais pour vous montrer que effectivement cette problématique des enfants soldats, elle existe dans beaucoup de pays. Et c'est vraiment une problématique qui tient à cœur de beaucoup d'ONG, dont Amnesty International, et contre lequel on se bat depuis très longtemps.
Vous savez, les enfants soldats, enfin, on a utilisé les enfants dans les guerres depuis toujours, hein. Ça ne date pas de maintenant. Pendant la dernière guerre, les kamikazes japonais, c'était souvent des enfants de 17 ans. Et on va vous passer un film au sujet de la réinsertion des enfants soldats en RDC, mais avant, je voulais vous dire que il y a des pays où les enfants ont été recrutés et utilisés par des groupes paramilitaires, des milices, des forces, etc., de défense. Alors, il y a la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Inde, l'Iran, la Libye, la Birmanie, Myanmar, l'Ouganda, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Soudan, RDC et Tchad. Et les forces armées gouvernementales qui ont utilisé des enfants comme espions, informateurs ou messagers, c'est le Burundi, la Colombie, l'Inde, l'Indonésie, Israël, Népal, Ouganda, RDC. Et puis, plus qu'une petite chose, parce que je trouve que c'est très important, il y a eu, dans le cadre d'un processus de paix et de transition politique commencé en juin 2003, le gouvernement de la RDC a bénéficié d'une aide de 160 millions d'euros de la communauté internationale pour la démobilisation et la réinsertion d'environ 150 000 combattants, dont 30 000 enfants, selon les estimations. Voilà. Mais donc le gouvernement a déclaré en fin juin 2006 qu'il avait démobilisé 19 000 enfants, mais plus de deux ans après son lancement, 11 000 d'entre eux, au moins, sont encore dans les rangs des groupes armés ou ne donnent pas signe de vie. Voilà.
Imaginez, vous êtes un garçon ou une fille de 11 ans dans un pays déchiré par la guerre. Vous devez combattre parce que les soldats vous ont enlevé ou parce que vous n'avez pas d'argent pour la nourriture, les vêtements ou l'école. La vie à l'armée est très dure, terrifiante, extrêmement dangereuse. Chaque jour, vous côtoyez la violence, les viols, la mort. Vous avez peur. Vous n'avez qu'un seul souhait, que le cauchemar s'arrête. Vous voulez vous enfuir. Vous êtes parvenu à vous échapper pour rejoindre un programme de démobilisation destiné aux anciens enfants soldats. Là, on vous encourage à retrouver votre foyer, votre famille. Mais à la maison, il n'y a toujours pas d'argent pour la nourriture ou l'école. Autour de vous, les combats se poursuivent. Les soldats cherchent toujours à vous enlever. À quel avenir pouvez-vous prétendre?
La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand il y a la guerre, tout le monde est enfamé au fond. Les coquins ne vont plus, coquerico.
Les enfants racontent leur terrible vie de soldats. On les a forcés à combattre. Il faut tuer pour survivre. Les soldats adultes qui les ont recrutés les ont maltraités, violés, torturés. La plupart racontent leur histoire sous le couvert de l'anonymat pour éviter les représailles.
Est-ce que vous pouvez leur demander comment ils s'appellent ?
Jean-Marie Bagan. Est-ce qu'ils peuvent raconter, est-ce qu'ils ont été des anciens enfants attachés aux groupes armés? Ils avaient quel âge quand ils ont été enrôlés?
Lui, il avait 15 ans. Non, pas la même âge.
14.
Lui, il avait 14 ans.
Est-ce qu'ils ont été recrutés de force?
On les avait pris par la force.
C'était où que ça s'est passé?
C'était à Wesh.
Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là?
Ils étaient des écoliers.
Et il y a des soldats qui sont venus à l'école les prendre ou comment ça s'est passé?
Quand on nous avait frappé beaucoup et beaucoup encore, tout le monde était perdu dans la forêt. On nous punissait par des fouets. On va te dire que si tu as fait une erreur, on va te fouetter même 70, même 120, même combien de fois. Il y a ceux qui vont mourir à cause des fouets. Et que... C'est ça.
Parmi tes amis, il y en a qui sont morts à cause des fouets?
Oui, il y a deux. C'est terrible, cette histoire nous vient de la RDC, la République démocratique du Congo. Ce pays d'Afrique centrale est dévasté par la guerre. En RDC, près de 30 000 enfants ont été recrutés pour servir les combattants. Les filles y ont également été utilisées comme esclaves sexuels. En 2004, dans le cadre du processus de paix, un programme national a été mis en place pour démobiliser ces enfants. Mais des milliers d'enfants n'ont pas été relâchés et le recrutement se poursuit dans certaines zones. Sur les 12 500 enfants soldats de sexe féminin, 2000 seulement ont été localisés. Nous estimons que le gouvernement et la communauté internationale ne font pas suffisamment d'efforts pour démobiliser et réinsérer tous ces enfants. Avec mon collègue Andrew Philippe, je suis allée à la rencontre d'anciens enfants soldats. Nous travaillons pour Amnesty International qui veut savoir pourquoi tant de ces enfants risquent à nouveau d'être recrutés. Notre recherche commence sur le terrain de football d'un centre de transit pour les anciens enfants soldats.
Juu ya kuona kukosa ile tutafanya mama yetu aiko wetu alituacha na si kutoka Mungu soda ni hakuwa naomba Mungu akinyacha kama si Mungu soda kama hivi niko sawa
kinyenye kukabisa kwa kuiwa kazi kwa nguvu kwa mtu
kwa kwenye niko kula tu na kuvala niko niko nguvu
juu ya kwanza nilitoka kwanza mkijeshi mimi nakuta njala kunyumba. Mimi naona kwenye nilitoka sina kitu mimi nasema sekundi hasa emwe ningi tu nikijeshi tena basi nitatafia.
Pourquoi est-ce que tu préfères être dans l'armée?
Dieu nous appelle à rester pour Dieu, on peut dire, je sais pas comment on a marché la parole.
Je vois, sinon je vais faire tout le monde à l'humour à Congo. Je ne donne ni tout mickey à Congo, mais la quitte de moi, sinon je vais faire tout le monde à l'humour à Congo.
Ceux qui ont la chance de passer par un programme de démobilisation se sentent en sécurité pour la première fois depuis bien longtemps. Ils retrouvent l'espoir. Là, ils ont des vêtements et de la nourriture.
hivi yenyewe kwa tunafanya hapa ni ya kusema ke hizi mambo tunazunguza kuke basi kwa ke sihi basi kumwa wende wasipatie wengine watoto basi bara ya hivi.
Dans ce sens, brûler les vêtements symbolise la fin de leur existence de soldats. Maintenant, ils doivent rentrer chez eux et retrouver leur famille. Mais ce retour peut être difficile.
Les conflits armés qui se sont succédés ont poussé les familles à des déplacements massifs et fréquents. Et lorsqu'on se déplace, on ne se déplace pas avec les champs, on ne se déplace pas avec les bétails. Et lorsque les enfants retournent dans les communautés et qu'ils n'ont rien à manger, là, ça constitue un premier facteur de risque au ré-recrutement. Au ré-recrutement, parce qu'il n'existe aucune autre solution alternative. Et vous savez que la plupart des interventions du programme national, non du programme alimentaire mondial, sont limitées à des communautés périphériques de la ville. Et ils ne peuvent pas aller là parce qu'ils disent qu'il y a l'insécurité, ils ne sont pas rassurés de leur sécurité.
Mourabazine Amegabé est un militant pour les droits de l'enfant. Il dirige ce centre. Ici, les enfants reçoivent un kit de survie le jour de leur départ. Ce kit leur permettra de subsister quelque temps de retour chez eux. Mouna se demande si ses enfants vont refaire le même périple plusieurs fois, malgré les documents de démobilisation censés les protéger. Il a déjà accompagné certains d'entre eux à deux ou trois reprises.
Ce qui s'est passé dans, ou ce qui se passe encore dans notre pays, c'est que depuis que les conflits armés ont débuté, et les gros, ce sont des enfants qui ont été forcés à se faire recruter par les groupes armés, et d'autres à cause de la pauvreté ou des problèmes familiaux, surtout les orphelins ou les enfants maltraités, sont partis d'eux-mêmes pour se faire recruter dans les groupes armés. Et la communauté nationale, appuyée par la communauté internationale, on a fait pression pour que les droits des enfants soient respectés et pour que ces enfants soient libérés et réinsérés dans leur famille et leur communauté. C'est une vérité, c'est une évidence, les recrutements ou les ré-recrutements. Ces deux formes-là continuent dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Les enfants sont plus utiles d'une manière classique comme dans d'autres pays parce qu'ils constituent une main-d'œuvre qui est gratuite. Et les enfants ne réclament rien. Et en plus, ils sont considérés comme des excellents combattants.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ne reculent pas devant un obstacle. Ils sont prêts à tout, à avancer malgré l'obstacle à cause de leur immaturité.
Le retour se fait dans la joie. Les familles sont heureuses de recevoir leurs enfants. Mais ceux-ci sont toujours en danger. Bon nombre d'entre eux sont recrutés à nouveau, car ils n'ont pas la possibilité de recevoir une éducation ou d'obtenir un emploi qui permettrait leur réinsertion. Le programme de démobilisation n'aide plus ces enfants une fois qu'ils sont retournés chez eux. À cause de la guerre, les familles sont déjà trop pauvres pour se nourrir. Elles peuvent encore moins subvenir aux besoins des enfants qui reviennent.
Na ndio maana mimi nafika hapa kuuliza ya kuwa hivi mimi nampata lakini si yakuwa na ile roho kanuni kamili ya kusema kama ashakuwa tena wangu. Njoo hii mnaweza niambia kama hata rudia tena wala atarudia tena. Sijiwezi mimi peke. Hata vile gisi ya kumchunga na akili yenyewe alienda kamata kule sijua kama anaweza kuwa tena na akili ya kimtu sawa vile kawaida mbo na maisha nayo iko sawa inanivuruga kupata chakula kupata masomo ya kumsomesha ile ndio nguvu yangu juu hatuna leta hapo le mama ya kukamata batoto waende kunasa.
Souvent, les commandants viennent dans les villages avec de fausses promesses de nourriture et d'argent pour réintégrer les enfants dans leur monde.
Est-ce qu'il a peur que l'enfant soit recruté de nouveau?
Si elle dit furaya tena aingie mule lakini ile iko nafika kila mara. Tuko tunaona watoto wanawareke bana batosha mkijeshi. Kisha tena kuna kuya komanda fulani aseme niko na $10 niko na $5 munifati. Na ndio pale watoto wanatupatia mwingine. Jusha kwa na ile nosio ya majani onjaka anaweza mfuatilia tu ni kumdanganya.
Les enfants retournent également dans l'armée parce que les recrutements forcés se poursuivent. Les documents de démobilisation sont censés protéger les enfants de tout nouveau recrutement. Mais ils sont bien trop souvent ignorés. Les commandants menacent également les familles pour les contraindre à livrer leurs enfants. Mbwembwe, un ancien enfant soldat, risquant beaucoup d'autres d'être recruté à nouveau. Les soldats ont menacé sa mère et sa famille.
Alifika hapa tukapita tunamfukuza atoke kabisa juu ile wakati walikuwa nafanya mnyanatia soda nyumba banakia kumvinase banampiga na shit tukaogopa tukamwambia aende na ndio vile aliendaka na huko na juu kwenye hapo hapa kwa.
Les menaces contre sa famille et l'absence d'éducation pèsent sur le destin de Mbwembwe. Il risque de devoir revenir à l'armée.
Il n'y a pas où manger, mais ma mère qui est là, même s'il peut m'accrocher chez lui, il n'y a pas de l'argent pour ma guerre pour aller me faire étudier à l'école. Par conséquent, je suis resté de là.
Est-ce que ça vous est arrivé des fois de penser que vous feriez mieux de retourner dans l'armée?
Oui, chaque fois ça m'arrive. Il y a des gens qui sont venus prendre des soldats, démobilisés, et des ambassadeurs. Il faut qu'ils aillent se présenter là-bas. C'est pourquoi je suis parti de là. Alors, mais j'avais l'ambition de rentrer dans l'armée puisque je dois absolument rien. Ici, bon, je me comporte comme un individu, je ne fais que voler. Moi qui ai déjà devenu bandit et subi encore son enfant, ils m'ont laissé comme ça, de se disperser dans les quartiers.
En RDC, toute une génération a dû sacrifier son enfance à une guerre qui la laissera meurtrie à vie.
Ndio mnaona taba ya watoto ile vitutubi wanafaa pale. Ni ile mayani ile inaanza sasa kubananyea akili. Utakuwa bamoya atakuvula manguo, batageuka basili.
Qu'est-ce qu'il faut quand ils sont déshabillés? Na wakati wenyewe wanatosha manguo vile wanaanza fanya.
Ni baada sasa kukutanishana banaume wawili, ni baada sasa kufanya sasa vile banamke. Na bako wanafunda mihana. Na wewe mwanamke, nyie bote ni mko pale. Musicheke, musiseme, kuangaliaka tu, kukacheka bana kuhu.
Elle dit que...
Ata we mwanamuke, na banamuke bote kuvula manguo. Ata mama yangu, ata uo sabi yuko na mtoto yako pale. Usisikia ya, unavula tu nguo mbele ya mtoto yako. Ungali mtoto kidogo, ata wa mwaka kumi, utaenda kutana alisha kuzala.
Que pouvons-nous faire pour mettre un terme définitif au recrutement ou au re-recrutement des enfants soldats dans les groupes armés? J'estime que ceux qui ont commis ces actes, qui s'apparentent à des crimes de guerre au regard du droit international, doivent être traduits en justice. Alors seulement, les enfants se sentiront de nouveau en sécurité. Ils sauront que ces criminels ne peuvent plus leur faire du mal. Éduquer et former ces enfants constituent également des priorités. La plupart des enfants auxquels j'ai parlé disent qu'ils rêvent avant tout d'aller à l'école et d'apprendre. Il faut donner un espoir à ces enfants et à leur communauté. L'espoir qu'un avenir est possible pour eux. Sans cela, le recrutement ne cesseront jamais. J'ai parlé avec Franck Kachando, un responsable de l'UNICEF.
La communauté va continuer à socialiser, à reprendre à socialiser les enfants et à les prendre comme leurs enfants. De l'autre côté, il y a maintenant les agents formés pour ça, les agents de protection qui doivent poursuivre leur travail en termes d'accompagnement psychologique. Mais l'enfant n'a pas besoin que de ça. Dès qu'il est rentré, il doit manger. Dès qu'il est rentré, il doit être soigné. Donc il doit accéder aux services de base. Les services de base, dans le chaos, les 10 ans de plus de 30 ans de dictature et les guerres qu'a connues notre province, les services de base, ils n'existent plus, ils sont inexistants. Donc il faut que quelqu'un assure ça. Il faut que quelqu'un assure ça. Et ce quelqu'un-là, à titre principal, c'est l'État qui doit assurer l'accès de tout le monde aux services de base. Mais comme l'État ne peut pas être pourvoir pour le moment, bon, il faut bien que les gens volent à la rescousse de l'État et comblent ce vide-là. Donc ce sont les organisations d'appui, les bailleurs de fonds, les Nations Unies, les ONG, tant nationales qu'internationales. Voilà.
Le gouvernement de la RDC et la communauté internationale doivent donner une chance à ces enfants, celle de bâtir un avenir pacifique pour leur pays. Ces enfants sont l'avenir de la RDC. Je retourne à Londres pour rédiger mon rapport. Je veux avertir les gens du désastre qui se produira si nous n'agissons pas. Signé par Véronique Coubert.
Quelque chose à dire ou des témoignages ou quelques des questions? On est un peu sous le choc. Oui.
Nathalie, tu as nommé Israël tout à l'heure, non? Le Pakistan?
Non, oui.
C'est le... Moi, j'ai nommé le Pakistan. C'est le Pakistan. C'est au Pakistan qu'il y a...
Non, t'as nommé Israël.
Ah ben, on s'est pas mis en engagement.
J'en ai parlé parce que les forces armées gouvernementales qui ont utilisé des enfants comme espions, informateurs ou messagers, et il y a Israël dedans, effectivement.
Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus. Vous avez dit que, tu disais, Josie, que en fait, ces enfants sont recrutés autant par les forces armées gouvernementales que par les forces rebelles. Dans le témoignage, voilà, dans le témoignage, ce qui apparaît, c'est que ce sont avant tout les forces armées gouvernementales qui recrutent ces enfants. Comment est-ce qu'on peut s'attendre dans ces conditions à ce que ce soit le gouvernement qui aide à la réinsertion de ces enfants?
Bonne question, oui.
En sachant que là, le petit film est sur la RDC. Donc faut, là encore, c'est pour ça que moi, j'ai parlé des gamins et du Pakistan. Faut pas oublier que les enfants soldats, c'est pas que la RDC. Bien sûr que la RDC, il y a eu des choses catastrophiques. Et il y a surtout un mouvement de la communauté internationale pour essayer, c'est bien dit dans le film et Josie en a parlé, des fonds qui ont été libérés pour permettre la réinsertion, et c'est vrai qu'on ne peut pas travailler malheureusement sur tous les pays à venir, mais moi j'insiste vraiment sur ce qui se passe au Pakistan au jour d'aujourd'hui, où là on n'a absolument aucun moyen de savoir la réalité et surtout d'intervenir, où encore une fois on a des gamins de 4 à 6 ans à qui on apprend d'être des gamins qui vont être porteurs de bombes et donc d'être des bombes humaines. Donc je pense qu'on a à s'attendre dans les années qui viennent à des choses dramatiques avec Josie, tu m'interromps si je me trompe, mais si même de mémoire, Amnesty avait énormément travaillé il y a des années en arrière sur la Colombie et sur l'Amérique du Sud, sur un autre pays, je ne me rappelle plus, où il y a effectivement eu une libération des enfants soldats avec un programme qui a été mis en place et avec des gamins qu'on a pu réinsérer plus ou moins bien dans la vie quotidienne. Aujourd'hui on est focalisé sur l'Afrique et tant mieux parce qu'effectivement il y a des drames humains qui se passent, mais il ne faut pas oublier que c'est pas que là. Par contre ta question
quel que soit le cas, est-ce que c'est pas une monstrueuse hypocrisie que de donner des fonds à un gouvernement alors qu'on sait très bien que
comme je vous le disais tout à l'heure, la RDC, le gouvernement a dit qu'il y avait démobilisé 19 054 enfants exactement, alors qu'il y en a encore 11 000 dans les rangs des groupes armés. Donc bien sûr, c'est l'hypocrisie.
Juste pour ajouter, en sachant que y a quand même un contrôle sur les fonds qui sont utilisés, on ne donne pas, et puis tu te démerdes, il y a quand même effectivement les organismes internationaux qui sont là pour essayer de contrôler.
Bon, excusez-moi, je vais essayer un peu de prendre la parole. Je suis originaire de ce pays. Je suis un peu ému parce que je connais la guerre. J'ai été. Je sais ce que c'est. Tout ce que je peux vous demander, d'abord, il faut voir la source. Qu'est-ce qui finance cette guerre? Ce sont beaucoup plus les responsables. Cette guerre, elle sert à quoi? Au pillage des matières premières. Quand vous prenez par exemple la responsabilité des États-Unis, Comment comprendre que Bill Clinton a ratifié le programme là, et Bush qui arrive, et qui refuse. C'est pas ça cette histoire. Alors je vais reprendre là qu'il y a 160 millions de dollars américains qui ont été, je vous dis sincèrement, ça fait mal au cœur. Cet argent ne sert à rien.
International.
60 millions, vous avez dit.
En fait,
oui. Mais c'est du point que je n'ai pas fait entre madame, ça n'a servi à rien. C'est comme disait l'intervenant hier ici. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin vraiment d'aide. L'Afrique a besoin des soutiens, des projets concrets. Donc, normalement, il faut commencer à déraciner le mal à la source. Des financiers, des multinationaux. Ça fait très mal. Je ne peux pas y continuer parce que je suis très ému.
Parce qu'il est très ému. Oui, alors vous savez, l'Afrique, elle est très riche, les sous-sols sont très riches, il y a des bois, il y a de tout. Pourquoi c'est piller les pays qui sont pillés, c'est des pays très très riches. Voilà, c'est pas par hasard qu'on lance des guerres comme ça. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours les mêmes qui trinquent, toujours les mêmes qui s'enrichissent. Hein. On s'en sort pas.
Oui, je voulais juste faire une petite remarque. C'est vrai que la notion de base, c'est quand même la nourriture et la faim dans leur village. Je crois que c'est un petit peu ça. Parce que si les enfants partent comme enfants soldats, à part des recrutements un petit peu anarchiques comme il y a dans certains endroits, je veux dire, dès qu'ils retournent, s'ils sont obligés de retourner pour avoir à manger, c'est pas une solution, quoi. Et, alors, on s'élève, et je crois qu'il faut s'élever là-dedans, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques années, en France, on avait des enfants soldats aussi. À 15 ans et demi, 16 ans, on les formait avec un fusil. Bon, on n'avait pas les mêmes contraintes. Il y a un certain nombre d'enfants qui allaient recrutés par l'armée parce qu'il n'y avait pas trop de ressources financières chez nous. On a évolué, c'est heureux, ça c'est bien. Mais vous voyez, la notion de base est quand même de trouver de la nourriture aux enfants pour quand ils reviennent au village, quoi, je veux dire, parce qu'autrement, on ne résout pas le problème. On le résout que temporairement.
Oui, je voudrais juste rebondir sur les deux interventions. Je crois que ce n'est pas tellement de trouver, c'est de permettre effectivement, et là je rejoins l'intervention de Thiam, et l'intervention d'une personne de samedi qui dit l'Afrique, ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays très riche, mais c'est les gens qui sont pauvres. Et ce n'est pas tellement de trouver la nourriture, mais c'est simplement effectivement d'essayer de piller les richesses. Et donc nous, en tant qu'Européens et en tant qu'Occidentaux, on a une part de responsabilité énorme là-dessus. Et là, je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Effectivement, tant qu'on ne cessera pas d'aller piller les richesses en Afrique, de ne pas laisser un centime aux Africains et de ne pas éventuellement les aider, mais parce qu'ils sont aussi capables de s'aider par eux-mêmes, je crois qu'effectivement, on ne résoudra pas complètement le problème des enfants soldats. Entre autres.
Oui, je reviens encore sur ce qu'il venait de dire. C'est qu'en Afrique, on a toujours l'impression que nous recevons de l'argent. Mais l'argent que nous recevons, la population ne voit rien. La population ne voit rien. Et ça se passe entre la hiérarchie. Hein? Et est-ce que vous ne pouvez pas trouver les moyens de faire parvenir cet argent, les 60 millions? Si vous aviez donné à la population africaine du Congo, je suis sûre qu'aujourd'hui, il n'y aura plus d'enfants soldats. Mais vous donnez à l'État. L'État déjà se partage, ils font des colloques, ils font... Bon, la moitié passe dans la poche. Et bon, après, vous vous étonnez que 60 millions, c'est beaucoup. Et malgré tout...
C'est 160 millions.
Voilà, bon, 160 millions en plus. 160 millions, c'est beaucoup. Et depuis que vous avez donné les 160 millions, qu'est-ce que vous avez vu de changé? Eux, ils disent qu'ils ont fait déjà 20 millions. Mais allez-y voir, il n'y a même pas 5 millions. Parce que, allez-y voir au fond, ils vous disent... Sur les papiers, puisque les rapports sont tellement précis, ils savent bien manipuler les phrases. Et que quand ils vous disent que, bon, on a eu 20 000 enfants ou 30 000 enfants, vous croyez, mais allez-y voir à la souche vraiment s'il y a 20 000 enfants qui ont reçu. Je ne crois pas. Est-ce que vous allez toujours faire la politique aveugle?
C'est pas... attention, là, je pense qu'il faut peut-être revenir aussi sur notre...
Mais non, sur notre je ne parle pas de vous,
effectivement, à Amnesty International, nous, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'essayer de dénoncer, de donner la voix à des gens sur place. C'est vraiment une de nos missions, à des gens sur place pour qu'ils essayent de dénoncer. Après, moi, je vous rejoins dans ce que vous dites. Enfin, et puis, je ne connais pas particulièrement l'Afrique, mais... là, c'est des questions qu'il faut poser à d'autres qu'à nous, malheureusement.
Oui, enfin.
Et puis, il n'y a pas qu'en Afrique que les gouvernants sont corrompus. Hein, je vais vous dire, dans le monde entier, en Indonésie, en Asie, c'est pas triste non plus. Hein.
Oui, mais la corruption, pourquoi jeter l'argent par la fenêtre dans ce cas-là?
Bien sûr.
C'est ça, en fin de compte, ça fait mal au cœur.
Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, d'abord, c'est pas le choix d'Amnesty. Effectivement, ça, c'est le choix des gouvernements occidentaux en particulier. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. C'est une monstrueuse hypocrisie. Personnellement, je pense que c'est simplement une façon d'essayer de se donner bonne conscience. Par contre, ce que je trouve extrêmement grave, c'est quand j'entends que le problème de base, c'est la pauvreté et c'est la faim dans les villages. Personnellement, je ne connais pas... c'est sûr que je vois les choses de très loin... Je pense que c'est extrêmement grave de dire ça, parce que ça veut dire qu'on occulte totalement le rôle politique de cette pauvreté, de cette famine, et en particulier le rôle des pays occidentaux. Parce qu'une fois de plus, on peut se donner bonne conscience en disant qu'on donne des millions, mais on sait très bien à qui on les donne et où ils vont aller. Donc il faut absolument arrêter de penser que c'est en allant faire la charité auprès de ces pauvres petits Africains qu'on va changer quelque chose. Personnellement, je pense que c'est une erreur très grave.
Alors, peut-être se poser une question. On peut peut-être se poser une question. Si vous donnez 100 euros
à ces gouvernements et qu'il en arrive 5 euros aux nécessiteux, est-ce que c'est la bonne formule que de dire, à partir de maintenant, puisqu'il y a autant de corruption, on ne donne rien? Je pose la question. Mais quand on agit au niveau des gouvernements, je vais dire, nous, petites associations, on est malheureusement très souvent démunis, quoi. Alors c'est un petit peu, c'est comme les aides humanitaires qu'on peut faire. On sait qu'il y a la correction, on sait qu'il y a de l'argent qui est perdu, qui est égaré, soit par les organismes, les salaires des organismes internationaux et autres. Mais est-ce que devant ce phénomène-là, est-ce qu'on arrête de donner, hein, purement et simplement? Ou au contraire, on continue à donner, sachant qu'il n'y a que 10% qui arrive.
Et puis à côté de la critique, je pense que vous pourriez peut-être une proposition.
Je voudrais qu'elle réponde juste, et on passe le micro après.
Non mais, quand on émet une critique, on peut essayer aussi d'apporter une proposition.
Oui, ce qu'il venait de dire, c'est vrai. Est-ce qu'il faut donner 100 francs pour que le pauvre Africain reçoive 5 francs? Et les 5 francs, c'est même pas sûr que l'intéressé aura cet argent. Alors, moi, c'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est pas mieux de travailler avec les petites associations? Parce qu'il y a des petites associations sur place. Si vous trouvez une association qui s'occupe d'une certaine population, vous vous engagez de travailler avec et vous suivez la traçabilité de votre argent. Et là, c'est mieux. Mais si vous donnez au gouvernement, il n'y a même pas 5% qui iront. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se casser la tête ici et donner déjà à ceux qui sont riches?
Moi, je crois que la réponse a été donnée au cours de toutes les interventions auxquelles j'ai assisté ici. C'est que l'aide humanitaire, l'aide directe aux populations démunies est bien, mais il faut absolument mobiliser les gens, les responsabiliser. Ça fait partie de l'action humanitaire et c'est très important de façon à pouvoir agir sur les pouvoirs publics. Bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais je crois que c'est la solution, hein. Vous n'êtes pas en opposition les uns par rapport aux autres, à mon avis.
Moi, je rebondis sur ce que vous dites derrière pour... j'en ai déjà parlé à quelques personnes dans la salle, reciter ce que fait Amnesty International US. Encore une fois, on se replace, nous, en tant qu'Amnesty International, c'est pas nous qui distribuons l'argent, on essaye d'en chercher, en plus de ça, pour faire vivre notre association. Par contre, effectivement, au congrès de Boston, il y avait une femme dont j'ai oublié le nom, parce que les noms propres, moi, je ne sais pas les retenir, je sais tout juste retenir le mien, qui est venue témoigner de l'état de la violence faite aux femmes au Zimbabwe, qui était présente. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'Amnesty, le rôle qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec des associations locales. Elle a créé une association locale de défense des femmes. Tout à fait. Elle a créé cette association locale, qui soutient les femmes, et Amnesty lui a donné en fait la parole, c'est-à-dire pouvoir aller parler du Zimbabwe aux États-Unis, au congrès d'Amnesty International, qui a été relayé dans toute la presse. Bien évidemment, elle a reçu le prix Award, qui est décerné chaque année, qui représente quelques dizaines de milliers de dollars pour permettre de continuer ce travail. Et je pense que vous avez effectivement tout à fait raison, parce que ces associations locales connaissent le terrain, connaissent les besoins. Et je pense que nous, en tant qu'organisation internationale, entre autres Amnesty, ça fait partie vraiment des missions qu'on se donne et du travail qu'on se donne. On n'est pas là pour arriver et dire, voilà, il faut qu'on fasse ça, etc. Non, on est là pour essayer de donner la parole, grâce à nos épaules qui sont un peu plus larges que les autres, aux associations qui bossent sur le terrain. Moi, je vous rejoins tout à fait.
Moi, je voudrais juste intervenir deux minutes. J'ai malheureusement pas pu assister à toutes les interventions qui ont eu. Mais je voulais juste vous dire, ça fait moi plus de 30 ans que j'essaye de militer, mais très très simplement. Je suis hôtesse de l'air, donc je vois beaucoup de choses qui se passent à droite et à gauche, et j'emmène moi-même des colis directement. Car je vous explique la simple et unique raison pour laquelle je le fais, c'est que la première fois où j'ai atterri à Sanaa, j'ai vu qu'il y avait des collines. J'ai dit, waouh, il y a des collines à Sanaa. Et j'avais eu la chance de faire l'atterrissage au cockpit et le capitaine m'a dit « Oui, mais tu vas voir, ce sont des collines de rats. » C'est-à-dire que nous avons atterri, les collines étaient le long de l'aéroport et c'était les tas de semoule, de blé et de riz qui avaient été envoyés par les organismes, on dira internationaux, quels qu'ils soient, hein, et qui avaient donné ça directement à l'État. Et pour moi, ça a été très simple. Quand je suis rentrée, mes enfants après sont allés à l'école. Et quand il m'a dit « Maman, un sac de riz pour l'Éthiopie », j'ai dit « Ah non, certainement pas les enfants ». Et c'est vrai que je voulais juste vous dire ceci, c'est que ça fait 30 ans, ça fait 20 ans maintenant, ça n'a pas changé. Et c'est vrai que pour moi, le direct des petites associations, c'est ce que disait madame, il y a une traçabilité. Alors quelle qu'elle soit, après on fait son choix. On veut donner d'une certaine façon ou d'une autre, on choisit. Mais au moins, on sait où ça va. On sait où ça va, et c'est vrai que ce sont souvent, que ce soit l'Afrique, l'Asie, ou moi je donne partout, en Amérique du Sud, j'emmène partout. Sachez que ce sont les femmes qui gèrent ça, et qui gèrent bien. Parce que rien ne va dans leur porte-monnaie. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, et moi je fais mes choses simplement, et je continuerai comme ça. Voilà. Merci.
Je voudrais juste surajouter par une petite information sur ce qui vient d'être dit sur ce riz, donc le riz de Kouchner de l'époque, qui avait une belle intention de base, qui avait certainement une très bonne mission de sensibilisation pour les enfants, mais qui a été une catastrophe, car il y a une chose qu'on ne sait pas, qui n'est pas dite, mais qui est sous-jacente. C'est que ce riz, on a fait acheter du riz aux enfants, qu'ils ont payé très cher, au prix du commerce, qui a été envoyé, qui a été mélangé. Et quand il a été livré, il a été incuisable.
Excusez-moi, je me remets un peu de mes émotions, mais je voulais quand même essayer un peu de répondre à la question de Richard tout à l'heure à Catherine, à titre d'exemple, parce qu'il y avait quand même des propositions. Par exemple, les 160 millions qui ont été donnés par rapport à la démobilisation. Si on avait créé un centre de réinsertion pour ces enfants, où ils devaient quand même apprendre un métier, ou revenir à l'agriculture, structure, ça serait une très bonne chose. Voilà, merci.
C'était prévu pour ça, puis ça a été détourné, comme d'habitude, quoi. C'est toujours la même chose.
On dit dans le fond de la salle, ceux qui donnent, qu'ils prennent des précautions. J'aimerais bien, oui.
Je crois qu'on est tous convaincus que le boulot que font les petites associations font un boulot formidable, quoi, je veux dire, de par la traçabilité, ça c'est vrai, de par l'investissement, ce sont des bénévoles, et je trouve que c'est fabuleux. Le seul problème, c'est est-ce qu'on peut vraiment se passer des autres, quoi, des grosses ONG, parce que qu'est-ce qu'on représente comme aide humanitaire, nous, petites associations, dans de tels besoins, vous comprenez ce que je veux dire. Et en plus, est-ce que nous, petites associations, on peut agir sur les gouvernements, à mon avis, non. Donc, on peut pas faire, on est complémentaires aux ONG, je crois qu'il faut bien penser à ça. Il faut pas mettre en opposition. C'est vrai que dans les gros ONG, et là, on est suffisamment bien placé à côté de Genève pour le savoir. Je crois que c'est à l'automne qu'il y a eu un salon de tenue en masse des professionnels de l'humanitaire. Moi, ça m'a un petit peu chagriné, ce terme, quoi. C'est une action que l'on a en tant que bénévole qui est généreuse, mais si elle est généreuse, c'est pas, on n'est pas des professionnels. Or, c'est vrai que des gens qui sont professionnels dans les grosses ONG ont de très bons salaires pour certains, et c'est une place assez envie. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas se passer d'eux, comme la population ne peut pas se passer de nos petites actions, parce qu'on ne touche quand même qu'une petite partie du peuple, quoi, je crois. On reste complémentaires, voilà. C'est le...
C'était le mot de la fin. Ben, on vous remercie beaucoup.